RFI, grand reportage.
Laurence Adou.
C'est aujourd'hui que Louis Gallois, ancien patron de ADS, devrait remettre son rapport sur la compétitivité au gouvernement français. Il devrait ensuite prendre des mesures sur le coût du travail, mais aussi l'innovation. Au cœur de ces discussions, le rôle des pôles de compétitivité. À l'initiative de l'État et des collectivités territoriales, ces pôles regroupent des laboratoires de recherche publique, de grands groupes et de petites entreprises pour stimuler l'innovation. Instauré en 2005, l'heure est aujourd'hui au bilan. Pôle de compétitivité, le choix français de l'innovation. Grand reportage signé Gaëlle Lalex. Gaëlle que l'on retrouve pour en parler dans un quart d'heure.
Waouh, c'est quoi l'odeur?
Ça chauffe. Je vais demander à un technicien de vous expliquer les machines.
Toutes ces grosses machines. Donc, en fait, on est sur des machines de formation de voile à partir du granulé. C'est ce qu'on avait appelé du spunbond et du melblown. Spunbond, la traduction, c'est filet lié, et le melblown, c'est fondu soufflé. Par exemple, le melblown va être beaucoup utilisé dans la filtration. On imagine les masques canards que l'on a connus pour la grippe aviaire, par exemple. La partie filtrante qui protège est fabriquée à partir de melblown. Le spunbond, ça va être un voile, un non-tissé qui va plus être utilisé en termes de support ou de séparation, fortement utilisé dans la couche bébé. Donc ça, ce sont deux machines qui vont utiliser du granulé, qui vont le faire fondre, qui vont le filer. Et d'un côté, on va le souffler, de l'autre côté, on va le refroidir et le napper. Particularité du CETI, tous les équipements sont en un seul et unique lieu, ce qui va permettre en fait d'accélérer cette innovation et cette recherche.
Simon Frémaux est ingénieur au CETI, le Centre européen des textiles innovants. C'est une plateforme de recherche dédiée aux nouvelles applications textiles. Le CETI est né au sein du pôle de compétitivité Uptex à Roubaix dans le Nord. Uptex réalise des produits textiles peu communs, destinés à la chirurgie, à l'aéronautique ou encore au transport. Anthony Duval, chargé d'affaires chez Uptex.
Si on regarde une automobile, on va tout de suite penser à des textiles que l'utilisateur a l'habitude de voir, les moquettes, les plafonniers, ce genre de choses. Et après, il y a tous les textiles que les utilisateurs ne voient pas, donc les filtres d'habitacle, l'air, etc. On va les retrouver sous forme d'isolants thermiques, d'isolants acoustiques. Historiquement, c'est vrai qu'on s'appuie sur une industrie textile avec une approche un peu traditionnelle. On a beaucoup d'entreprises qui étaient au départ sur des marchés de type habillement, etc. et qui, avec la mondialisation et notamment les fortes délocalisations qu'on a subi sur cette filière-là, ont dû transformer un petit peu leurs produits, leur marché, vers des applications techniques.
Est-ce que ça a ressuscité un peu le secteur textile dans la région ?
Ah, tout à fait. De toute façon, le levier de l'innovation a été un levier indispensable pour ces entreprises-là, parce que sans innovation, on ne peut pas proposer de nouveaux produits et donc s'insérer sur ces nouveaux marchés-là. Il est clair que les entreprises qui sont restées purement sur leur production historique ont eu tendance à disparaître, et les entreprises qui ont innové et qui ont essayé de se déporter vers ces nouveaux marchés-là ont réussi à se maintenir.
Et le pôle de compétitivité, dans tout ça, qu'est-ce qu'il a changé ?
La force qu'a eu le pôle de compétitivité, c'est d'avoir vraiment accéléré cette mise en réseau finalement entre ces nouveaux marchés, ces grands comptes qui ne connaissaient pas du tout l'univers du textile, son vocabulaire, ses technologies, et cette industrie textile un petit peu malmenée qui, elle, ne connaissait pas du tout ses applications techniques et ses nouveaux marchés.
2400 sites. On est à 3000.
Depuis 2006, Uptex est parvenu à labelliser 71 projets. Le pôle regroupe environ 150 membres, laboratoires de recherche publique, grands groupes et PME, petites et moyennes entreprises. Marc Honoré, directeur général du pôle de compétitivité.
En France, on a une culture qui est traditionnellement très différente entre le monde de la recherche, qui est plutôt académique, et le monde des entreprises. Et en fait, l'effort doit être fait des deux côtés, c'est-à-dire que la recherche doit davantage se tourner vers les entreprises, mais les entreprises doivent aussi davantage se tourner vers la recherche et aller chercher des solutions au sein même des laboratoires qui font des recherches.
Est-ce que vous diriez que ça a véritablement boosté justement la compétitivité ?
Alors, vous savez qu'il y a deux réalités derrière la compétitivité des entreprises. Il y a ce qu'on pourrait appeler la performance des coûts, donc la performance de la production, le coût des produits. Et là, cette performance, elle dépend d'un certain nombre de paramètres, comme par exemple le coût du travail. Et c'est un sujet sur lequel on sait qu'en France, on sera toujours plus cher que la Chine, que l'Asie, qu'un certain nombre de pays qui sont en voie de développement. Le deuxième volet, c'est de se dire, donnons les moyens aux entreprises d'avoir des produits différents, d'être singulières sur leur marché. Et là, c'est le problème de l'innovation. Le fait d'avoir des produits singuliers permet d'être compétitif sur un marché, parce que si on a les mêmes produits que le monde entier, bah, on est toujours trop cher.
Et les pôles auraient réveillé la France à ce niveau-là ?
D'ores et déjà, les choses ont bien bougé. Du reste, l'évaluation nationale récente des pôles de compétitivité a clairement montré que les pôles de compétitivité ont largement contribué à faire bouger les lignes, si je puis dire, entre la recherche et le monde de l'entreprise.
Pourtant, selon la dernière évaluation rendue publique cet été, Uptex fait partie des 16 pôles sur 71 à être jugés moins performants. Trois autres de ces pôles se trouvent également en Nord-Pas-de-Calais, la deuxième région française la plus touchée par le chômage. Les pôles n'auront donc pas suffi à la redynamiser. Pas étonnant pour Christophe Assens, directeur adjoint du laboratoire de recherche en management L'Arécois à l'université de Versailles-Saint-Quentin.
En France, on vit avec un prisme de l'État centralisateur et donc l'innovation prend la forme de territoires innovants qui vont découler d'une politique de subvention publique ou de défiscalisation de l'État pour inciter artificiellement et politiquement des acteurs qui ne se connaissaient pas au départ à se regrouper tous au sein d'un seul et même territoire. Donc il y a un effet d'aubaine pour ces acteurs à se rapprocher, mais ce n'est pas suffisant pour créer de la confiance et encore moins suffisant pour réaliser de l'innovation collaborative. Finalement, on va compenser la disparition d'usines en implantant des pôles de compétitivité qui, de toutes pièces, seront artificiels parce qu'ils ne tiendront pas compte nécessairement des avantages particuliers que procure le territoire. L'innovation, elle ne se décrète pas, elle repose sur la confiance. Donc l'État ne peut pas tout. Et il faut au contraire encourager la prise de risque, encourager l'entrepreneuriat. Pour l'innovation qui découle d'un tissu de PME implanté localement, il faut apprendre à faire confiance aux acteurs. À un moment donné, il faut que les pouvoirs publics se mettent en retrait et laissent faire les logiques de réseau, les logiques de marché, et pourquoi pas les logiques de relations interpersonnelles. C'est pas dramatique, c'est pas grave, et c'est plutôt comme ça que ça fonctionne.
Mesdames, messieurs, bonjour. Vous avez pris place à bord du TGV à destination de Lyon-Part-Dieu et Lyon-Perrache.
Donc voilà.
Bonjour.
Dans le centre d'infectiologie, on a une plateforme P3, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des modules de laboratoire qui permettent de travailler dans un niveau de protection niveau 3, sachant que le plus élevé c'est le niveau 4, qu'il y en a 7 dans le monde et dont il y en a un d'ailleurs à Lyon, juste à côté, à Gerland.
Isabelle Scarabin, directrice des affaires économiques et internationales de Lyon Biopôle.
Plus vous montez dans les niveaux, plus ça demande des conditions en fait, de traitement de l'air, avec également des sas à traverser pour entrer dans le laboratoire. L'objectif, bien sûr, c'est soit de ne pas faire entrer d'éléments pathogènes extérieurs, et aussi de ne pas faire sortir les éléments pathogènes sur lesquels vous travaillez. Alors là, je ne peux pas vous dire, je n'ai pas le droit de vous dire ce sur quoi ils travaillent, hein, mais en gros, le niveau P3, par exemple, c'est peut-être travailler sur la tuberculose.
Lyon Biopôle est spécialisé dans la recherche sur les maladies infectieuses. En plein cœur de l'agglomération lyonnaise, il fait partie des 20 pôles de l'Hexagone jugés très performants. Un des secrets de ce succès, le rapprochement réussi des acteurs publics et privés, selon Vincent Lotto, directeur de recherche à l'INSERM, l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale.
Ça a apporté un très grand changement parce que j'ai créé un deuxième laboratoire qui se situe dans le centre d'infectiologie de Lyon Biopôle. Et dans ce laboratoire-là, qui reste un laboratoire académique, les gens travaillent uniquement sur les projets liés au pôle de compétitivité, donc des collaborations publiques-privées. Ce laboratoire dans le centre d'infectiologie, c'est l'étape intermédiaire entre la connaissance et la mise sur le marché. Dans beaucoup de pays, mais en particulier en France, ce qui manque, c'est au moment du transfert de la connaissance vers le produit, il y a ce qu'on appelle la traversée du désert. Il faut valider toutes les connaissances et avoir des partenaires industriels pour que les produits puissent être développés.
C'est pas parfois compliqué de travailler avec des entités comme ça qui ont quand même des intérêts souvent radicalement différents?
Il y a des contraintes à travailler avec des industriels, c'est qu'effectivement l'industriel va travailler sur quelque chose qui est supporté par un marché. Alors que nous, dans notre milieu académique, la seule chose qui compte, c'est la connaissance pour la connaissance. En fait, si on a de bonnes collaborations avec les entreprises privées, on ne vend rien du tout à une entreprise privée. On ne vend ni son âme, ni la connaissance qu'on a générée. Et je pense pas qu'il y ait encore beaucoup de personnes dans le milieu académique qui restent à ce stade féodal de la compréhension des interactions publiques-privées.
Depuis la naissance du pôle, en 2005, 11 PME ont vu le jour grâce à ces projets. Platine Pharma Service emploie 22 personnes et fait de l'immunomonitoring, en clair, du suivi d'essais cliniques. Frédéric Hamel, son fondateur.
Une partie de l'innovation vient des PME, des idées qui créent. Cette étape passe par de la microstructure qui a besoin d'être couvée et les pôles de compétitivité assurent cette protection et cette maturation des bébés entreprises. Ça crée un lien qui est nécessaire pour la prise de la greffe de la petite PME dans le secteur.
Vous auriez pu faire ça sans le pôle de compétitivité ?
On aurait pu, mais on aurait pris un risque énorme d'acheter des locaux, ou en tout cas les louer, mais aménager des locaux, etc. Et on aurait eu un investissement initial bien plus fort. Et en cas d'échec, on aurait eu des conséquences beaucoup plus lourdes. Alors que là, la structure permet de tenter sa chance. Et puis quand on est assez mûr, de repartir et laisser la place aux autres. Aujourd'hui, on est dans la haute technologie, on a atteint un certain nombre de limites, les idées qu'on a sont de moins en moins révolutionnaires. Et donc, pour être capable d'avoir des belles idées qui donnent des beaux développements derrière, il faut avoir accès à des croisements de pensée, la biologie avec l'informatique. Et donc, tous ces croisements-là, ils peuvent s'improviser, mais le pôle de compétitivité permet de les rassembler et permet de les orienter. Et je pense que ça, c'est un vrai plus dans notre pays, parce qu'on a des endroits qui nous donnent des opportunités de trouver de nouvelles idées et donc de faire des produits pour demain.
Aujourd'hui, une centaine de PME se sont alliées à Lyon Biopôle. Elles n'étaient que deux en 2005. Pour Isabelle Scarabin, la connaissance du terrain et la proximité des acteurs sont la clé du succès.
Nous, on a une démarche très, très de terrain, c'est-à-dire qu'on va voir les gens. Parce qu'en fait, la meilleure façon de les aider, c'est les connaître. C'est que comme ça qu'on pourra réagir, avoir des idées, leur proposer ci, ça. Enfin, c'est vraiment de la connexion, du partage. Donc, on crée vraiment les opportunités. Hein. On force les gens à venir, on les appelle, on leur dit il faudrait que vous veniez, il faudrait que vous rencontriez cette personne. Et finalement, les gens apprécient qu'on pense à eux. Si nous, on ne fait pas la démarche proactive de leur faire des propositions, ça ne se passerait pas. Ils seraient tout seuls à le faire. Donc, quelque part, on amplifie les opportunités. Bon, on ne changera pas les mentalités, mais on change les modes de faire. Compte tenu du contexte économique, on ne peut plus être comme on était il y a 50 ans. C'est impossible. On voit bien que les industries pharmaceutiques, elles ne sont plus dans ce modèle-là. Donc, les mentalités ont changé et on y a participé fortement.
Mais Lyon Biopôle peut s'appuyer sur une tradition centenaire en Rhône-Alpes dans la recherche des sciences de la vie. Elle culmine aujourd'hui avec la présence à Lyon de grands groupes comme Biomérieux, Sanofi Pasteur ou encore Mérial. Alors les pôles ne feraient-ils pas au final que renforcer des territoires déjà compétitifs ? Un risque réel mais contournable selon Jean-Jacques Kéran, président de la région Rhône-Alpes.
Il faut toujours avoir une logique qui est une logique d'aménagement du territoire. Le pôle de compétitivité, c'est pas concentrer dans un grand centre urbain l'ensemble des fonctions. De même qu'un pôle de compétitivité, c'est pas uniquement des grands groupes qui seraient créateurs de richesses. Nous, on a toujours insisté au départ sur le pôle de compétitivité pour que les PME soient étroitement associées. Parce que le tissu de PME, c'est 85% de l'emploi en Rhône-Alpes. Et elles peuvent pas rester à côté, c'est pas des sous-traitants.
Mais avec la meilleure volonté du monde, est-ce qu'on peut vraiment créer quelque chose ex nihilo ?
Il faut d'abord qu'elle ait la force scientifique. La micro-informatique sur le terrain grenoblois s'appuyait sur une expertise très forte qui était aussi renforcée par la présence du CEA, du Commissariat à l'énergie atomique. Donc, on peut pas dire le pôle de compétitivité, d'un seul coup, on l'envoie au bout de la France parce qu'on a envie de faire de l'aménagement du territoire. Non. Le débat a été national, est-ce qu'il n'y en a pas trop ? 71, ça fait beaucoup. On a dit qu'on organisait une dispersion sur le territoire. Moi, je pense qu'il faut tenir compte des forces et un certain nombre de pôles ont été soulignés comme n'étant pas performants parce que ne correspondant pas à de véritables sujets porteurs. Nous n'en avons pas en Rhône-Alpes, mais ces pôles, effectivement, peut-être à un moment, il faut les arrêter.
Depuis 2005, le Fonds unique interministériel chargé de financer les pôles de compétitivité a injecté 2,2 milliards d'euros. L'innovation en France coûte cher à l'heure où les collectivités territoriales sont frappées par la rigueur. Les pôles attendent donc beaucoup du rapport Gallois et des mesures que prendra le gouvernement. Pôle de compétitivité, le choix français de l'innovation. Un grand reportage de Gaëlle Alex, réalisation Eva Moschinski.
Gaëlle Alex, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur de ce grand reportage. Alors, le rapport Gallois, donc, sur la compétitivité sera remis aujourd'hui au gouvernement. Les acteurs économiques en attendent beaucoup. Il faut dire que la situation n'est pas au beau fixe, hein. Le déficit commercial français dégringole. La part de la France dans le marché mondial a chuté de 6,3% en 1990 à 3,3% l'année dernière. Alors, Gaëlle, est-ce que ces pôles de compétitivité, est-ce que c'est la solution ?
Bien, il représente en tout cas une partie de la solution si l'on parle innovation. La France a besoin d'un sérieux coup de fouet dans ce domaine. Selon le dernier rapport mondial de l'innovation, réalisé par l'Institut européen d'administration des affaires et par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, la France n'est qu'au 24e rang. Elle a perdu 2 places par rapport à l'année dernière. La Suisse, la Suède et Singapour sont le trio de tête. Alors il faut savoir qu'avant les pôles, les gouvernements avait déjà pris des mesures pour stimuler l'innovation. Le dispositif le plus connu est le crédit d'impôt recherche, créé en 83 et renforcé en 2008. L'idée est toujours la même, inciter les entreprises à investir dans la recherche. Là où les pôles vont plus loin, c'est qu'ils rapprochent des acteurs très différents en leur donnant un même but. Faire travailler ensemble des laboratoires de recherche publics, des grands groupes et des PME. En France, jusqu'à il y a encore pas si longtemps, ça relevait un peu de l'alchimie.
Est-ce qu'on peut dire, Gaëlle, que les pôles ont rempli leur mission ?
Bien, pas complètement. En plus de stimuler la compétitivité, leur cahier des charges stipule qu'ils devraient aussi lutter contre les délocalisations et créer des emplois. Or, parmi les 16 pôles jugés moins performants, plus de la moitié se trouvent dans des régions déjà fortement touchées par le chômage. 4 sont situés dans le Nord-Pas-de-Calais, 2 en Lorraine, 2 en Languedoc-Roussillon ou encore 1 à La Réunion. Dans les régions déjà sinistrées et peu dynamiques, les pôles ne suffisent donc pas à compenser les pertes d'emplois. En fait, les pôles se concentrent sur l'innovation, qui vient surtout de petites entreprises, celles que l'on appelle les start-up. Mais ces entreprises n'ont pas vraiment besoin de beaucoup de mains. En fait, quelques cerveaux leur suffisent. Elles ne constituent donc pas une manne conséquente d'emplois potentiels.
Quel avenir attend donc nos pôles de compétitivité ?
Pour l'heure, le ministère de l'économie n'a pas du tout l'intention de changer sa politique à leur égard, même pour les pôles jugés moins performants. Une consultation devrait être organisée entre le gouvernement et ses 16 pôles d'ici la fin de l'année. Maintenant, il y a aussi la réalité des chiffres. Cette politique d'innovation coûte extrêmement cher. L'État investit 1,5 milliard d'euros sur 3 ans renouvelables. Or, le Fonds unique interministériel chargé d'assurer le financement des pôles arrive à échéance à la fin de l'année. Il faut donc attendre de voir si le même montant sera maintenu lors de son renouvellement. D'autre part, les collectivités territoriales affrontent aussi la rigueur. Les contrats de projet État-région, qui ont consacré une partie de leur budget au pôle, devraient voir leurs ressources chuter. Ces contrats ont coûté 25 milliards d'euros de 2007 à 2014. L'Europe pourrait donc être une solution à travers les 9 milliards d'euros du programme opérationnel du fonds structurel FEDER sur la période 2007-2013.
Ce sera le mot de la fin. Gaëlle Alex, merci beaucoup. Au micro, Laurence Ladoux, prenez soin de vous. Chaque jour est une vie et travaillons à la beauté des choses.